Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Mais pourtant, moi, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Bon, tout de suite, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, proche de bien. Oh, ton cul. C'est mon génie.
Il y aura quoi là?
Un petit stade. Avec un toit conçu comme une membrane en or.
Dites-moi, de toutes les institutions que votre utopie souhaite préserver, laquelle vous tient le plus à cœur?
Le mariage.
Le vent souffle sur la mer Égée, chargé de ce que les anciens apprirent de leurs anciens, la poésie de Sappho.
Les uns déclarent que la cavalerie, d'autres que l'infanterie ou une flotte de navires serait ce qu'il y a de plus beau sur la terre noire. Moi, je dis que c'est l'être aimé.
Ils sont tellement heureux de te voir. Merci.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez la deuxième partie de l'émission du Cinéma à Mort consacrée à l'année 2024, toujours en compagnie du docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut l'équipe.
Et merci d'être avec nous, bien évidemment, pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de notre intérimaire Jules Topoc. Bonjour Jules.
Salam alaikum.
Merci Jules Topoc d'être avec nous, toujours exactement en compagnie d'Erwan. Mais bonjour Erwan, rebonjour Erwan.
Bonjour et rebonjour.
Échappé en attendant Godard encore une fois, tout comme Thomas, ravi d'être enfin dans les studios de Canal B.
Shalom les kids, ravi et heureux d'être ici, même si chez nous le matériel fonctionne correctement.
Et oui, et on s'excuse évidemment pour la qualité parfois un petit peu approximative du son et de toute la technique.
C'est des radios libres
de Canal B, évidemment radio libre, radio associative.
Libre de toute compétence.
Hein, on n'a pas l'argent évidemment de la fac de Rennes 2 hein, qui peut se
le
permettre.
Le dégris de pognon.
Et c'est ça, oui.
D'argent public. Hein.
Voilà, pour des gens qui abandonnent leurs études et puis des gens qui ont abandonné leurs études depuis déjà 15 ans et qui continuent d'abuser du matériel hein, de la faculté. Thomas. Pendant qu'on parle justement d'abuser du pognon des autres, t'étais là pour nous proposer d'évoquer, ça sera le sujet de cette émission, de cette deuxième partie, hein, d'évoquer le cinéma américain. Je peux me permettre hein, en préambule de dire que waouh, qu'est-ce que c'était bien cette année.
Effectivement, le cinéma américain, qui donc on le rappelle, est quand même le plus grand pays de toute l'histoire de l'humanité. Hein. Là, ils l'ont encore prouvé cette année avec le retour du plus grand président
avec Israël, quand même.
De toute l'histoire de l'humanité.
Antonin.
Israël n'existe que grâce à l'Amérique il y a 200 ans. C'est historiquement vrai. Et donc, l'Amérique... Et donc l'Amérique, effectivement, on ne cesse de le répéter depuis des années, le cinéma américain est en chute libre avec quelques épiphénomènes qui ont pu nous enchanter ici et là. Et donc cette année, Antonin en parlait dans la première émission sur la bonne santé du cinéma français, du fait que les Ricains ont été en grève pendant 9 ou 10 mois en 2023, ce qui effectivement a empêcher la production de nombreux films, ou alors des productions rushées pour certains films, donc ce qui fait qu'il n'y a finalement pas grand-chose de cinéma américain qui soit sorti cette année.
Enfin, on parle surtout des gros studios, oui, des voilà. grosses productions,
donc,
en fait.
Hein. Donc des gros studios, des Marvel, des DC, ou d'autres grosses, grosses gloumoutes abreuvées de thunes qui peuvent sortir, ou alors certaines sont sorties directement sur plateforme, comme notamment le film avec... Ryan Reynolds et non avec Chris Evans et The Rock, un film de Noël qui a coûté 250 millions de patates, qui a été un bide gigantesque.
Red One
et qui est sorti dans la plupart des pays directement sur plateforme parce que tout le monde s'en foutait. Et donc cette année, de toute façon, globalement, le cinéma qui nous intéresse a été trusté donc, par des vieux, Miller, Zemeckis, Francis Ford Coppola, Eastwood, avec des fortunes diverses et variées, mais en tout cas, c'est là où
t'as
je pense...
citer Kevin Costner.
Et Costner, et je pense que c'est là... Je
Michael
pense
Mann aussi.
Oui, Mann aussi, sorti, c'est, ouais. Oui, c'est vrai qu'il est sorti du Benoît Ferrari. Et je pense qu'effectivement, c'est là qu'on a trouvé le cinéma qui nous intéressait le plus, ou en tout cas...
En tant que mâle blanc, qui nous ressemble le plus autour voilà. de cette table.
Et malgré les qualités et les défauts de chaque film, c'est là où on a trouvé le plus de choses. Il y a un certain cinéma du milieu, on va dire, avec India Donaldson, avec Jeremy Saulnier, avec Todd Haynes, avec Jeff Nichols aussi.
Denis Villeneuve.
Il est québécois. Donc les films qui sont sortis, voilà, où il y a des choses qui peuvent nous intéresser, mais c'est vrai que c'est vachement disparate, et finalement, il y a peu de films dans le tas qui ont suscité un enthousiasme général, excepté le film de George Miller, sauf pour une personne autour de cette table. Nouveau, laissons deviner qui, un esprit chagrin et voire peut-être chafouin.
Mais il aura son temps de parole.
Mais c'est vrai que du coup, on ne peut plus uniquement, et comme là notamment on parlait des vieux qui vont dans les 10 prochaines années plus ou moins tous casser leur pipe, il va y avoir un renouvellement obligé des cinéastes dans le cheptel donc du cinéma américain. Je sais qu'Antonin, on a déjà repéré cette année avec le réalisateur de Noël à Miller's Point, dont j'ai oublié le nom.
Tyler Toermina.
Voilà, c'est ça qui est moi un film que je n'ai pas du tout aimé personnellement, Etienne non plus, et Jules non plus je crois, mais qui en tout cas seront évidemment et probablement un des cinéastes américains qui va revenir assez régulièrement dans les prochaines années et sur lequel, en mal ou en bien, il faudra compter.
Oui, enfin, si on fait confiance à Antonin. Hein. Qui fait confiance à Antonin autour de cette table ? Ah oui, Erwan est d'accord avec...
Moi, je ne crois aucun des deux.
merci Thomas pour cette présentation. On pourra tous réagir après coup, mais l'idée, c'était de laisser la place, en effet, à Jules
Topoc.
À la haine, à Jules Topoc.
Non, à la clairvoyance.
Non, mais puisqu'en effet, tu ne partages pas... un avis partagé par les autres autour de cette table sur deux ou trois films qui ont été cités par Thomas. Et donc l'idée, c'était quand même de te laisser la parole, en évitant de te la couper d'ailleurs, pour justement cracher toute ta rage et ton mauvais goût à la face du monde.
Trois films, trois abominations qui ont peut-être, peut-être à travers vos yeux, ont eu une perception de grand chef-d'œuvre et que moi, ça me laisse complètement sur le bord de la route. On parle de la route avec Furiosa. Furiosa, je ne comprends pas. Et l'histoire qui ne sert à rien, qui est vraiment en plus grotesque de ce revival, de rechercher à nouveau le gros méchant, qui est vraiment méchant. Il y a un premier avec Liam Hemsworth, c'est ça là
Chris
avec
Hemsworth.
Avec son faux nez
et
ce rôle, on va dire, ah bah tiens, on va faire un grand bébé. Ah, ça c'est nouveau ça. Oh, c'était grotesque et je n'ai absolument
pas compris
vas-y. Ce personnage. Par contre, ce qui est pour moi choquant, c'est l'esthétique et la qualité de temps voué de mise en scène de Miller, alors que j'ai l'impression que tout est filmé en accéléré. Donc moi, j'ai un problème avec ça, cette accélération.
C'était déjà le cas pour Fury Road.
Pour Fury Road, c'était le cas. Il y a quelques séquences dans Mad Max, dans l'original, avec des accélérations pour pouvoir faire en sorte que les voitures aillent plus vite. Mais là, pourquoi user et surabuser de cette accélération à toutes les séquences. Ça me sort du film et je comprends pas. Je trouve que c'est un côté grotesque et de bip bip et le coyote. Donc ça marche pas du tout avec moi. Et le seul plaisir que j'ai pu avoir, c'est 15 minutes de la séquence d'action avec ce gros camion et ce petit enfant. Mais c'est un court métrage. Donc ça, tout l'esthétique et toute la mythologie qui est tentée créée.
C'est pas un enfant, c'est un nain.
Ben, c'est tout à fait pareil.
Sois pas négligent avec les personnes de taille ridicule.
En tout cas, il meurt et ça, c'est bien. Mais ça ne sert à rien. C'est une suite qui sert à rien.
Les propos de Gilles de Pogue n'engagent que lui.
La direction artistique est catastrophique, avec vraiment cette petite nounours qui est toujours accrochée sur Hemsworth. Et j'ai vraiment eu peut-être mon fou rire de l'année quand elle démarre son petit moteur sur sa petite épaule pour couper à la fin. Là. Ça, vraiment, je me dis, c'est quand même super Monty Python. Donc là, vraiment, moi, ça m'a sorti du film. J'ai rien vécu. J'ai trouvé ça très plat. C'est une incompréhension et de voir vous prosterner devant ce truc là, c'est tout plat, ça moi ça me plaît pas.
Très bien.
On se prosterne devant personne.
On pourra peut-être évoquer ça plus tard dans les bonus ou autre chose. Il y en avait plusieurs que
Mégalopolis.
Mégalopolis de Francis Ford Coppola.
Boursouflure, grotesque encore et toujours, beaucoup trop de choses.
C'est
il manque encore
avec le grotesque, Jules. Ça peut être bien le grotesque.
Mais là, le grotesque, parce que des mecs se prennent au sérieux. C'est vraiment au premier degré de dire je vais faire un truc mythologique avec une surabondance de références que je maîtrise pas forcément. Mais je me dis, mais j'ai aucun plaisir à voir ce film. J'ai souffert de tenir jusqu'au bout. Où est-ce que tu veux en venir, Francis? Et là, encore et clairement, un mec qui manque d'un producteur pour lui dire, mais t'es fait n'importe quoi, Francis, arrête de vendre des vignes pour pouvoir faire ce film-là. J'en retiens rien. J'en retiens surtout, encore et toujours, comme Furiosa, une esthétique déplorable, vraiment avec de la 3D, de la surimpression, des images de fond vert. C'est laid. Je trouve qu'il y a, alors que c'est deux mecs là avaient une puissance filmique complètement tarée, et là eh ben ils se sont convaincus et absous au numérique, et c'est un fond d'écran Windows, donc c'est abominable.
T'avais pensé quoi des derniers Coppola de la décennie?
Twix et tout, il est mort vivant. Encore Twix, et toujours Twix, comme horrible. comme des tas de cinéastes qui auraient dû s'arrêter bien avant. Les Tim Burton, les Kusturica, les Scorsese, c'est des cinéastes morts-vivants qui ont vraiment.
Il tourne plus Kusturica.
Mais non, mais quand il a encore tourné après Underground, il a refait encore et toujours le même film. Mais c'était des
fascistes.
Films morts-vivants. Ouais, mais c'était mortel. Donc,
je l'amène pile où je voulais.
Mégalopolis, pathétique. Et la dernier énervement de l'année, et là encore et toujours. Le Festival de Cannes, ça commence vraiment à me gonfler, mais j'y retourne tous les ans quand même. Anora.
Bah, t'y vas pas, hein. Rappelons-le.
J'y vais au cinéma.
J'y vais tous les jours sur Vanity Fair et sur Harper's Bazaar pour voir ce qui se passe sur le tapis rouge.
Oui, ce qui était là, clairement la meilleure édition de l'année. Hein.
Anora, c'est...
La Palme d'Or, hein, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué nous dans l'émission, donc on va revenir un peu là-dessus.
Alors, un film d'une vulgarité terrible
Sean Baker,
qui filme... des choses qu'il dénonce en utilisant les codes des choses qu'il dénonce, en filmant ça comme un film, comme un clip de R&B.
Comme Verhoeven l'a pu faire, en fait.
Et c'est 2h20.
Comme Michael Bay.
Et c'est long à suivre encore et toujours ce personnage. Et par contre, là, ce qu'il a réussi à faire, c'est que c'est une génération, et en tout cas, il filme des gens détestables. Et je trouve qu'ils devraient tous subir ce que Brad Pitt leur fait subir dans Once Upon a Time in Hollywood. Ils devraient tous les défoncer au premier degré, parce que vraiment, ces personnages sont ignobles. Et c'est long, et elle est insupportable. T'as envie de lui jeter son téléphone par la fenêtre. Et ce personnage magnétique qui est vraiment derrière Anora en permanence, qui la regarde avec les yeux de l'amour, moi, j'avais juste envie, c'est qu'il la défonce. Parce qu'elle est détestable, et lui aussi est détestable. Ils sont tous débiles, et donc moi ça m'intéresse pas de voir des films avec des personnages que j'ai envie de jeter par la fenêtre. Donc Anora et la Palme d'Or, allez bien vous faire foutre.
Mais Lars von Trier, t'aimes bien par exemple, parce que tous les persos aussi chez von Trier, ils sont pas hyper agréables.
Ouais, mais au moins il me propose quelque chose. Et, bah, lui aussi c'est un cinéaste mort vivant, mais là c'est des gens que je peux croiser au quotidien, ne serait-ce que d'aller faire un tour dans les transmusicales un samedi soir. Il y a des tas d'Anora partout. Et ben, ils devraient tous crever ces gens-là.
Bon. Oui, alors... oui, parce que chez von Trier, il y a un hyperbolisme.
Avant qu'on
personnages...
ait des soucis. Bref. Antonin, tu voulais réagir sur Anora. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'émission.
Non. Mais
si, tu l'as dit.
Oui, on n'en a pas parlé.
Tu ne te défausses pas comme
non,
ça.
Non. Moi, je peux réagir par rapport à ça. Ce n'est pas un film que j'adore, Anora. Et effectivement, je trouve que c'est une petite palme d'or, mais même en disant ça, je me fais honte parce qu'on n'en a rien à branler des palmes d'or. C'est un peu naze, mais c'est vrai que c'est pas un cinéaste que j'adore. J'ai vu tous ses films sortis en France, un par un, peut-être pas le premier, me semble-t-il, mais c'est pas quelqu'un. Je trouve ça toujours trop sucré. Je trouve qu'il y a toujours un côté trop agréable dans ses films qui fait que ça essaye d'arrondir tous les angles où ça devrait, vu qu'il ne fait que de filmer les marginalités ou des endroits plutôt saillants d'un côté qui va mal aux États-Unis et tout ça. Tu te dis, à chaque fois, il essaye toujours d'arrondir les angles pour les rendre plutôt sexy. Chaque fois, ça me rend ces films sympathiques parce que c'est sucré, mais à la fois très limité parce que c'est sucré. Là, ça ne déroge pas à la règle. Et ceci dit, je trouve que c'est quand même, il y a quand même chez lui quelque chose qui est plutôt rare, c'est d'arriver à filmer, voilà, ça encore, en tout cas un peuple américain, un peuple des marges. Et je trouve que c'est, il y en a pas beaucoup qui filment ça, et je trouve qu'il le filme bien malgré tout. Alors moi, je suis un peu
une catégorie de l'Amérique, genre les white trash. Ou c'est assez diversifié, parce que j'ai pas vu les films, hein.
Non, il filme
travailleurs du sexe, c'est vraiment sa thématique.
Non, là pour celui-là, mais après sinon il va filmer par contre, oui, des white trash certainement, hein, ça c'est sûr, mais par contre en tout cas, ouais, que des prolos ou des même pas des prolos, parce que des fois c'est des gens qui travaillent pas, mais par contre voilà, s'il y a un truc chez lui, moi, qui m'intéresse, c'est que voilà, t'as quand même, enfin, dans Anora, t'as ce truc où effectivement tu pourrais te dire, ouais, tu pourrais rapprocher ça de Verhoeven parce qu'il va reprendre ça, il va vouloir utiliser le vocabulaire d'un truc très pop ou je sais pas quoi, ce qu'il fait pendant Anora pendant une heure, ce sur quoi le film a été vendu. Le côté sucré, le côté Las Vegas ou je sais pas quoi, chose qui m'apparaît toujours être le truc de Sean Baker. Il y a un côté très pop. Ce que j'aime bien dans le truc, c'est qu'au final, le film, il est pas si agréable que ça, mais dans le bon sens du terme. C'est que tu as une première heure qui est plutôt séduisante, mais la deuxième heure est au contraire, mais que sur une science de montrer des actions dans leur durée. T'as quand même un truc genre ça dure. Et moi, même moi, je me faisais un peu chier. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, tu réduis, t'as un sujet de comédie. Tu as un sujet de comédie, rends ça drôle, c'est pas assez drôle. Mais ceci dit, je me dis, non, il a quand même une façon de vouloir faire exister tous ces personnages-là dans leur durée, dans Anora, qui fait que les personnages existent. Que ça va à l'encontre de tous les clichés que tu pourrais avoir. Tu as ce truc dans Anora qui est marrant, c'est que tu pourrais dire, ouais, c'est la mafia russe. La mafia russe, ça trimballe une somme de clichés incommensurables. Tu vois, par exemple, les travailleuses du sexe, évidemment, ça trimballe une somme de clichés cinématographiques incroyables. Il verse dedans la Verhoeven. Il va vraiment aller là-dedans. Mais quand c'est la mafia russe à un moment, tu pourrais croire que ça va être la mafia russe, comme dans un film de Jason Statham, mais c'est des prolétaires de la mafia russe, des mecs qui obéissent à quelqu'un, qui obéissent à quelqu'un, qui obéissent à quelqu'un, des mecs qui sont là dans un bled américain, qui obéissent à quelqu'un, qui obéissent à quelqu'un, ils sont là, ils n'ont pas envie d'être là, c'est des prolétaires, ils sont là, ils accomplissent une action, ils n'ont pas envie de l'accomplir, donc du coup l'action, elle est lente, et ça dure, et en fait, au final, plus je repense au film, plus je le trouve plutôt honorable, parce qu'en fait, ça, vraiment, ça, il est plutôt hyper juste dans tout le point de vue qu'il peut avoir sur tous ces personnages, sur toute l'action dans laquelle ils sont enchevêtrés, on va dire. Et je trouve ça, je trouve que il y a un point de vue de cinéaste là-dedans, où je n'ai pas eu l'impression de le ressentir aussi fort dans les précédents films de ce type-là. Et je me dis, j'ai quand même envie de continuer à regarder des films de ce type-là.
Ah ouais, ma liste sur Caro, c'est terminé. Voilà.
Ce que je vous propose, avant de revenir sur le cinéma américain, bien évidemment, parce que moi aussi j'ai des choses à dire, mine de rien, c'est de faire une courte pause de
6 minutes à tout péter, histoire de rendre hommage, rien à voir avec Anora en fait, hein, à l'une des personnalités qui nous a quitté cette année, qui m'a le plus touché, à savoir Kris Kristofferson, hein, donc merveilleux chanteur, auteur-compositeur et puis merveilleux acteur, hein, qui a une filmographie assez exceptionnelle, peu de mauvaises choses quand même.
Du bon côté de la barricade.
Exactement, avec autour justement du Furiosa notamment, et puis une petite gourmandise pour terminer.
J'aime bien
une petite gourmandise quand même. Juste après, j'aimerais revenir sur 2-3 films sur lesquels Jules n'a pas forcément tapé, mais tu auras peut-être aussi quelque chose à dire, même si tu n'as même pas voulu les voir, je suis sûr que tu auras quelque chose à en redire. On se retrouve juste après cette petite pause.
My spring team, courageous, skillful, yes. Recently in school, aristocrats, straight from Almanac de Gotha. Gentlemen sportsmen, very nice. On the straight into the tight corner at Nouveau Monde, there's only one line through it. Barrow pulls up next to you, challenging. You're even. But two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Barrow doesn't lift. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman or a competitor? How will the French think of me if I run Barrow into a tree? You lift, he passes. He won, you left. Because at that same moment, Barrow thought, fuck it, we both die. Make no mistake, all of us are racers, or I have been. We all are certain it will never happen to me. Then my friend is killed. I give up racing forever on Monday. I'm back racing by Sunday. We all know it's our deadly passion. Our terrible joy. But if you get into one of my cars, and no one is forcing you to take that seat, you get in to win. Break later.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalks, wishing, Lord, that I was stoned. There's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging.
and I stop beside a Sunday school and listen to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. 'Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as it sounds on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
Tu sais, cette nuit j'ai rêvé d'un fleuve obscur. Mais cette nuit, pour la première fois, je le traversais.
Lâchez-moi. Traverser un fleuve, ça symbolise la miséricorde, ça symbolise le salut de l'âme.
Ouais, ben chez moi, ça veut dire que t'es déjà sous terre. Mais je n'ai pas eu peur en le voyant. Parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui m'attendait.
Voilà.
On a eu le plaisir d'entendre Chris Christopherson et ce merveilleux morceau, Sunday Morning's Coming Down, extrait de son premier album, hein, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on pouvait entendre au générique de Fat City de John Huston. Voilà, un film tout aussi merveilleux. Et donc Chris qui nous a quittés cette année, et c'était très très triste. On reste sur le cinéma américain pour terminer cette émission. Je me permets d'évoquer quelques films qu'on a juste survolés, y compris dans cette émission, on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Hein. Je pense notamment à Horizon de Kevin Costner, qui reste
dont on attend toujours la suite.
Voilà, évidemment. C'est aussi si vous... j'évoque Horizon, mais j'évoque Horizon aussi, et je vais évoquer deux trois films qui vont aller avec. Il me semble que les vieux cinéastes américains cette année, et c'est quelque chose qu'Antonin avait déjà évoqué il y a deux ans, c'était à l'époque de Fablemans. Donc c'était il y a deux ans, c'était pas l'année dernière. Hein, je dis pas de conneries. C'était l'année dernière, Fablemans, ouais. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Où t'évoquais le fait que de nombreux vieux cinéastes avaient l'air de s'empresser pour en fait faire des films quasi autobiographiques ou très autobiographiques parce que c'était la fin et qu'ils auraient plus la chance en fait de faire les films qu'ils avaient envie de faire ou de raconter leurs histoires un peu personnelles en fait. Et il me semble que cette année ça s'est accentué mais que ça s'est développé en fait et que c'est pas uniquement en effet son autobiographie qui va être importante mais c'est la source même du plaisir cinématographique ou de ce qui compte dans le cinéma qui va les importer. Et ça vaut pour un peu tous les films que moi et ces cinéastes-là m'ont apporté cette année et qui m'ont beaucoup plu en fait. Donc évidemment, il y a l'Horizon de Kessner, donc le western à l'ancienne, tel que lui l'a découvert sans doute en fait, d'un point de vue feuilletoniste ou saga ou romanesque, on peut employer un peu les termes qu'on veut, je pense, en attendant de voir la suite de ce qu'il pourrait faire. Ça vaut aussi pour Eastwood, on l'a évoqué beaucoup dans cette émission, et moi il me semble que le cinéma de Clint Eastwood, quand lui ne sera plus là, il n'y aura plus personne pour faire des films de ce genre. Et non, il est toujours là, et pour avoir revu Juré numéro 2, moi je le mets très haut en fait dans la liste et au-dessus de Furiosa par exemple cette année en revoyant Juré numéro 2 il y a quelques jours à peine, je me suis dit mais c'est impressionnant en fait la subtilité de ce film, c'est vraiment brillant en fait sur le regard, sur tout ce qu'on peut aimer chez Clint Eastwood en fait, à savoir voir derrière les apparences, le gris, c'est-à-dire que c'est presque au-delà de ce que pouvait faire Sidney Lumet en fait. C'est vraiment brillant en termes de mise en scène, tout en ayant cette forme
classique propre à Eastwood en fait, mais vraiment plein de petites subtilités. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais moi ça m'a vraiment paru assez incroyable et je me dis, une fois qu'il y aura plus Eastwood pour faire un film pareil, il n'y aura plus personne pour le faire. Et donc, il faut s'accrocher très fort à ces choses-là. Si on évoque Michael Mann ou Coppola, dans des genres très différents, mais c'est pareil, tu sens qu'ils sont en train de faire leur dernier film, ou en tout cas, ils le font comme si c'était leur dernier film, quoi.
Mais même les Zemeckis, hein, c'est des films qui sentent pas forcément la mort, mais en tout cas, on sent un travail... d'un discours sur la fin.
Exactement, sur la fin de leur œuvre. Sur la fin, et puis, mais malgré tout, avec une croyance énorme. Et
avec une porte toujours ouverte,
voilà.
Au cas où.
Et une croyance énorme dans le cinéma, en fait, dans la forme cinéma, dans les possibilités du cinéma, sans avoir à faire. Et Zemeckis, c'est un très bon exemple. Hein. On l'a évoqué dans l'émission, mais le fait de revenir, non pas à un ascétisme, mais en tout cas à une.
Une apparente simplicité.
C'est ça, et puis l'essence même en fait de la forme cinématographique et ses possibilités, justement en revenant à des formes, à une base en fait presque du cadre, d'une vue. Voilà, les possibilités énormes en fait, revenant à la base, à l'origine, et puis voyons comment on peut faire exploser tout ça et développer tout ça. C'est assez brillant et. Furiosa, je le mettrais un peu à part, déjà parce que le type n'est pas américain, et parce qu'il me semble, justement, après avoir revu certains de ses films, et notamment le Eastwood et le Kevin Costner, que George Miller, même si j'aime beaucoup Furiosa, c'est un film qui me fascine, mais je comprends Jules aussi quand il démonte Furiosa, en fait. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. T'es revenu dessus beaucoup, Antoine, dans l'émission. Et je trouve que tes arguments et ta façon de défendre Furiosa sont très, très intéressantes. Mais malgré tout, dans Furiosa, en le revoyant, je me dis, bah oui, ça m'intéresse. Je trouve ça, en termes de conception des personnages, de comment reproduire les choses, je leur rabaisserais, en fait, dans mon top. Parce que je leur mettrais plutôt au niveau de... Alors, toute proportion gardée, bien évidemment, parce que George Miller a un vrai talent de metteur en scène. Mais en termes de thématique, en fait, je le ramène beaucoup plus auprès de Joker Folie à deux. Dans ce que ça raconte, du monde contemporain, en fait. Bien évidemment, les deux n'ont rien à voir en termes de mise en scène. Dans ce que ça raconte et dans ce que ça me peut me bouleverser entre guillemets dans ma façon de voir les choses et le monde, et moi j'attends du cinéma aussi qui me propose des choses pour évoluer entre guillemets, et voilà, ces deux films là étaient grosso modo un peu similaires en termes de thématiques, alors que le Eastwood, là, en le revoyant, je me dis, putain, le salaud, il m'a eu, en fait. Il y a tellement de choses que j'avais pas vu à la première vision du jury numéro 2 sur les différents points de vue. Justement, on évoquait dans la première partie sur le cinéma français le point de vue unique, et là, d'un coup, Eastwood, justement, il propose quelque chose d'assez merveilleux, parce que c'est très très subtil sur ce film de procès. On évoquait aussi le film de procès dans la première émission. Il défonce tout, en fait, Eastwood, avec Jury numéro 2, sur l'absence de méchants, de Machiavel ou de quoi que ce soit, mais par contre juste de conception de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, en fait. Et ça, c'est toujours ça, en fait, le cinéma d'Eastwood, et en fait on a tendance à l'oublier, et ça m'a fait du bien, en fait, de revoir ça. Et dans sa mise en scène, il est capable de le montrer de façon très très subtile, c'est-à-dire qu'une scène est montrée de points de vue différents, justement. En tant que spectateur, à la première vision, t'es convaincu d'avoir vu la même séquence, mais juste filmée d'un point de vue différent, enfin, avec la caméra qui propose un autre angle de vue. Et non, en fait, tu te montres quelque chose de très très différent, mais tu t'en rends même pas compte. Il faut le voir plusieurs fois pour te dire, mais oui, en effet, c'est juste que voilà, un personnage ne vit pas la même chose, ne le vit pas avec la même intensité, ça n'aura pas le même impact sur lui, mais en fait, il te raconte ça avec des images de façon très très simple. D'un point de vue, enfin, d'une forme classique, justement, et cette forme là qu'il exploite, et avec des thématiques très riches, justement, je rapproche ça de Ciné Lumette, et je pense qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire du gris. Il y a plein de gris partout, en fait, ça dépend comment tu te disposes ou tu te prédisposes en tant que spectateur, en tant que personne, en fait. C'était brillant, en fait. C'était vraiment brillant. Et c'est pour ça que moi, je pense que le jury numéro 2 de Eastwood, il sera très, très haut au-dessus de tous les autres machins.
Parce qu'il brasse aussi des trucs, enfin, moi, que j'aime bien voir dans le cinéma américain. C'est-à-dire, notamment, l'idée que la justice et la vérité ne sont pas liées l'une à l'autre. Mmh. Ouais, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Lumet. C'est un truc que j'aime beaucoup dans le film de procès.
Et la morale,
les questions de morale sont pas liés à des questions de justice ou de vérité, qu'en fait ces gens-là se retrouvent pour un rituel, en fait, qui est un jugement.
Et ce rituel, sa morale, voilà, et sa justice.
Exactement. Et ce rituel est un rituel symbolique, qui est en fait un rituel, comment dire, d'unification sociale, en fait. Et en fait, il y a plein de trucs qui se dégagent, ouais, moi, je trouve, de Juré numéro 2, mais qu'on trouvait déjà un petit peu, moi, je trouve, alors sous un autre style, mais qu'on trouvait déjà un petit peu dans
ses précédents films, ouais,
notamment dans Minuit, qu'on trouve aussi dans Minuit, dans Jardin du Bien, ouais, ouais. Le fait que ça se passe dans la même ville, moi, je trouve que c'est pas un hasard que la chanson se passe dans la même ville.
Non, piché.
Mais c'est pas le même film du tout, par contre, justement. Et là aussi, c'est-à-dire que c'est deux films de procès dans la même ville, mais qui sont pas du tout abordés, où les thèmes justement de la justice et de la vérité sont pas du tout abordés de la même manière.
Après, c'est vraiment un truc chez Eastwood qui a été hyper récurrent, de toute façon. La différence entre l'image publique et l'image réelle.
Image publique, c'est ça, et l'image réelle.
L'image sociale et l'image réelle.
Ce qu'il est, lui, politiquement, c'est-à-dire plutôt du côté conservateur, voire réactionnaire, et la subtilité humaniste dont il est capable, ce qui, là aussi, invite quand même le spectateur à réfléchir un petit peu aussi à des questions culturelles, c'est-à-dire à se dire, mais quand j'aborde le cinéma américain, je ne peux pas aborder le cinéma américain avec des tropes français ou européen, parce que être réactionnaire et progressiste en même temps.
Parce que chez Clint, tu as toujours cette dualité qui est assez propre au cinéaste américain, qui est à la fois la question de l'individu et de sa réussite personnelle qui est extrêmement forte, parce que c'est le principe de la recherche du bonheur américain, et son double ou son revers, qui est la question du peuple, et l'individu ne peut pas fonctionner sans le peuple dans le cadre de la réussite américaine. Même si tu dis que tu vas réussir tout seul parce que tu es le self-made man, le self-made woman, il y aura toujours, presque derrière toi, la question du peuple qui va revenir et que tu ne peux pas effacer si tu veux faire un juste panorama, en fait, du peuple américain.
Et comment vivre en communauté, comment faire le vivre ensemble.
Et il y croit.
C'est du fort, il y croit à fond.
C'est ça qui est merveilleux avec ce film aussi.
Il est très optimiste de ce point de vue-là.
Il fait un film, et comme je disais, moi, ça me fascine de voir un film déjà contemporain. Et Ford ne l'aurait pas fait, hein, je pense, où on n'a pas à faire justement.
Si un film de Ford qui devait se rattacher à Jury numéro 2, c'est La Dernière Fanfare.
Ah putain, je pensais
que. Il pourrait y avoir ça, mais même dans La Dernière Fanfare, il y a de ça, je suis d'accord.
Mais sauf que finalement, tu vois.
Dans La Dernière Fanfare, il y a quand même, en fait, quelque part, des gens qui cherchent à...
Il est moins optimiste.
Qui sont conscients qu'ils peuvent faire du mal. Là, on n'a pas affaire à des gens qui ont conscience qu'ils pourraient faire du mal. Ils veulent tous faire le bien, en fait, à un moment ou à un autre. Et c'est ça qui est fascinant et qui est très complexe dans le film. Mais bon, ça, au-delà de ça, parce que ça, c'est un des aspects extrêmement positifs de la construction même du film, qui n'est pas de vilains ou de gens qui cherchent à faire mal leur travail. Au contraire, il n'y a que des gens qui veulent bien faire et qui sont dans une dualité constante, vraiment. Tous les personnages sont constamment dans une dualité. À un moment ou à un autre, ils vont évoluer, ils vont changer de face. Ils ont tous deux faces.
Et puis ils ne sont pas poussés par des idéaux, ils sont poussés par des trucs très pragmatiques.
Très pragmatiques.
Le héros, c'est je vais devenir père de famille, je me retrouve dans une situation.
Je ne cherche pas à faire le mal, il se pose la question constamment.
Mais ils
sont poussés par des idéaux, voilà.
Comme disait Mylène Farmer.
Mais qui ne se traduisent jamais par des grands discours, c'est-à-dire qu'ils se traduisent toujours par des trucs très pragmatiques.
Voilà, c'est ça.
Comment dire.
On n'a pas de. Justement, on n'est pas dans un film français. La même chose avec un film français aujourd'hui, en 2024, en France, il y aurait forcément un moment, un discours justement sur la justice, sur la morale ou sur un personnage qui va devoir promouvoir en fait une idéologie quelque part.
Éric Dupond-Moretti fait une pièce de théâtre, si tu veux. Je pense que ça parle de ça.
Qui ça ?
Éric Dupond-Moretti.
Ah, super. Voilà. Le fait est que cette forme qu'emploie Eastwood pour développer tout ça, en fait, cette forme très classique, même si, enfin, aujourd'hui très classique, ça veut plus dire grand chose, mais dans le cinéma d'Eastwood, voilà, on se réfère, enfin, à justement une mise en scène qui est pas mise en avant, en tout cas. Mais malgré tout, il y a un vrai travail de mise en scène qui est subtil constamment. Et moi, il me fait vraiment
de plus en plus penser là à du ciné lumette, mais du cinéma tardif, mais justement qui est en pleine maîtrise de son art, en fait. Et c'est pour ça que je voulais évoquer ça. C'est parce que les autres metteurs en scène que j'ai évoqués, même dans des mesures très très différentes, que ce soit Costner, Coppola ou Michael Mann.
Ou le dernier Friedkin, qui est aussi un film de procès.
Ou le dernier Friedkin, mais qui me paraissait vachement en dessous quand même.
Oui, ouais, mais en fait, qui parle exactement des mêmes thématiques.
Qui parle des mêmes trucs. Mais en fait, ça, c'est hyper intéressant, ce truc-là. C'est qu'il y a quand même un truc. Moi, j'ai un peu de mal à cerner cette année-là, ou en tout cas de sortir un peu des lignes de force. Mais en réfléchissant au truc, tu dis, c'est hallucinant de voir qu'il y a quand même une grosse prédominance. Quand on prend le Friedkin, moi, que j'aime bien le Friedkin, hein, mais c'est surtout parce que j'aime bien Friedkin. J'aimerais pas le film si c'était pas signé par un Kidam, quoi. Pareil. Mais le film m'intéresse parce que c'est signé par Friedkin. Robert mais Alton, ceci dit, a vraiment. Le film de Friedkin a quand même des originalités qui lui sont propres. Hein. C'est que la fin est très étonnante, quoi. C'est vraiment un film de procès qui carbure au film de procès sur un truc et qui va te déjouer tout un truc qui est propre au film de procès.
En deux minutes,
T'es content à la fin parce que c'est le procès a été gagné et à la fin, on te dit, tu t'es complètement fourvoyé. Et ça, c'est vraiment un truc complètement inédit. Et ça questionne un truc qui est une sorte de storytelling qui est propre au film de procès. C'est-à-dire que quel est le récit qui va être le plus valide possible, quoi. Et là, l'avocat, en l'occurrence, à la fin de comment il s'appelle ce film, Mutiny of the...
The King Mutiny Court Martial.
Ouais, voilà. Il dit, le récit que j'ai promu et que j'ai fait valider par le truc, c'était le truc le plus valide. Mais il dit au mec qui l'a fait gagner au procès, c'est de la merde. Parce qu'en fait, en gros, ce récit-là, c'est peut-être le plus valide, mais tout ce que t'es, c'est de la merde. Parce qu'en gros, c'est celui que j'ai fait perdre qui a raison, parce que toi, t'es une merde. Mais en fait, là-dedans, il y a la tension entre le récit qui est un petit peu valide et en gros, le gris de la réalité ou je sais pas quoi. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ce truc-là, tu vas le retrouver dans pas mal de films de cette année et notamment dans ce film que tu as cité tout à l'heure qui est vraiment pas un bon film, hein. C'est vraiment même une catastrophe industrielle, hein, c'est Joker 2, mais c'est vraiment ça. Et qui est un film de procès aussi et qui est vraiment un film
c'est pas que un film de procès.
C'est quand même majoritairement un film de procès. Et majoritairement un film qui est basé sur cette idée complètement tarée de dire, on pourrait presque le prendre de façon méta, genre il faut absolument que ça soit un film spectaculaire et t'as un personnage qui dit non, je veux pas du tout que ça soit spectaculaire et le film ne sera jamais spectaculaire alors que le spectateur il veut que ça soit spectaculaire et que t'as un personnage principal qui dit non, jamais. Et le film est fascinant là-dessus, c'est nul. Le film, on peut pas dire que ça soit réussi, mais c'est vraiment, ça fait partie des échecs les plus, des catastrophes industrielles, tu dis mais c'est, le truc est dingue. C'est que c'est vraiment, ça porte en lui un truc qui est, tu peux être qu'admiratif par rapport à ça.
Et moi, ça me fait penser à Gladiator 2. Hein.
Alors moi, bizarrement, ça me fait penser à un film que moi j'ai trouvé plutôt réussi, qui est Rebel Ridge.
De Jérémy
Saulnier, qui est vraiment un film, alors justement, où même le thème est dans l'histoire, c'est-à-dire vraiment, c'est le thème de la désescalade, c'est-à-dire que c'est des personnages qui passent leur temps à ne pas vouloir faire ce que le spectateur attend.
Oui, oui, oui.
Et moi j'avoue que j'ai pas vu Joker 2, donc peut-être que j'aurais retrouvé ça aussi, et j'ai pas vu non plus Gladiator 2, mais moi j'ai trouvé que c'était une forme de fiction, moi, qui je trouvais assez intéressante, c'est-à-dire un peu déceptive, et en même temps justement un peu, portée justement par des personnages où là aussi finalement, pour retomber sur le Eastwood, où finalement tu comprends en fait, tu comprends le protagoniste et l'antagoniste, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils font les choses.
Et où les persos sont intelligents.
Et les personnages sont intelligents. Donc c'est quand même, et moi je sais que j'ai beaucoup aimé Rebel Ridge parce que, bon, déjà un film pour moi qui commence avec The Number of the Beast de Iron Maiden, ça peut être qu'un bon film, parce que j'ai une certaine affection coupable pour Iron Maiden, et d'ailleurs pas coupable, j'ai une affection sincère pour Iron Maiden, qui est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescent, donc moi je suis toujours très content quand il y a du Iron Maiden.
D'où les cheveux longs,
mais voilà, je trouve ça très bien quand
je tiens à dire, pardon je te coupe, mais c'est vrai que quand j'associais Joker 2 et Gladiator 2 au départ, c'était pas tellement
parce qu'il y a deux dans le titre
par exemple. En fait c'était beaucoup parce qu'il y avait deux dans
ça compte
titre. Non mais c'est vrai que ce rapport à la suite et le rapport à un succès passé en fait m'intéressait pas mal, c'est-à-dire que ce rapport qu'avaient en fait ces vieux cinéastes aussi à la qui était à la recherche selon moi en fait d'une de renouveler en fait des classiques un peu du cinéma américain. Alors, Joker 2 et Gladiator, je ne les considère pas forcément comme des classiques.
Mais c'est des films qu'on marquait.
Je mettais Coppola aussi dans le tas, en fait. Coppola qui va aller à la recherche d'une source cinématographique qui lui a donné du plaisir, le péplum ou d'autres choses, tu vois, qui va nourrir son film de plein d'éléments comme ça, et qui va en faire sans doute une grosse boursouflure, mais voilà, qui va nourrir tout ça de ça. Costner, qui lui aussi, évidemment, va essayer de faire revivre, peut-être pour une dernière fois, en fait, un cinéma qu'il a adoré et qu'il a envie de revoir et de faire pour le grand écran. Et moi, j'ai partagé ça à 200%, j'étais à fond.
C'est des cinéastes aussi.
J'étais à fond.
C'est des cinéastes analogiques, en fait.
Et pour ce qui est de Joker 2, pour ce qui est de Joker 2 et de Gladiator 2, c'était des cas un peu particuliers. C'est-à-dire qu'en effet, c'est des trucs très récents. Et Joker 2, qui foutait en l'air toutes les attentes d'un public potentiel qui avait adoré un premier volet que moi j'avais trouvé sans intérêt.
Mais c'est le cas de Furiosa aussi. Hein.
Voilà. Et Furiosa pouvait rentrer. Voilà, en effet, Furiosa rentrait dedans, c'est pour ça que j'évoquais Furiosa aussi.
C'est film kamikaze.
Et Gladiator 2 m'a pas mal fasciné. Je me permets, parce que du coup, on n'en a pas trop parlé à l'émission, Antonin, rapidement. Mais Gladiator 2 m'a assez fasciné parce que c'était. J'ai repensé à cette phrase qui avait dit que l'histoire se répète toujours, une première fois en tragédie, une deuxième fois en farce.
Danny Boone.
Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il a.
Un film sur les douaniers.
Il a pris ça au pied de la lettre, comme pouvait le faire peut-être Todd Phillips. C'est-à-dire, bah voilà, la première fois, c'est une tragédie.
Ouais, mais chez Hayden, c'est quand même vachement plus cool.
Et là,
que chez
c'est
Todd
une
Phillips,
farce. Hein. Et Gladiator 2, il faut le voir comme une farce, je pense. Et si tu le vois comme une farce, et c'est.
J'ai pris énormément de plaisir. Ouais.
C'est une grosse farce. Et si tu le prends au sérieux, évidemment, tu n'arrêtes pas de te dire, bah, c'est lamentable. Et puis en plus, il se fait pas chier. Il reprend le même truc, sauf que plutôt d'avoir un empereur taré, bah, il en fait deux.
Il y a des singes, des rhinocéros et des requins.
Il y a des singes, rhinocéros, il y a des requins.
Les délires animaliers, c'est toujours bien dans les films.
C'est grotesque du début à la fin, en fait. Mais traité de façon, entre guillemets, un peu sérieuse.
Un peu camp.
Filmé comme le premier, sauf que, évidemment, c'est de la farce. Enfin, tu peux
c'est
pas,
mieux filmé que le premier.
Si tu prends ça au sérieux, évidemment, c'est abominable.
Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose de Megalopolis?
Mais justement,
en fait, il y a le truc question. Quand même là où c'est un peu flou hein, mes idées là-dessus, mais il y a quand même ce truc-là qui court dans plein de films qu'on a évoqués, c'est l'idée du rapport entre un personnage qui essaye de véhiculer un récit et la relation que le récit qu'il essaye de véhiculer va pouvoir avoir avec une société. Donc là, ça marche avec Megalopolis, c'est comment. Voilà, ce type-là peut exister médiatiquement. Comment le récit qu'il peut essayer de véhiculer va pouvoir se faire? Comment il va pouvoir être accepté ou je sais pas quoi? Ça peut même marcher avec l'histoire de Suleiman. Moi, tu vois, l'histoire de Suleiman, la fin. Là où moi ça m'intéresse le plus, c'est genre bah voilà ce truc-là qui est le mec, il est obligé de se conformer à un récit qui est conforme à ce que la société, en tout cas, accepte. Et il est obligé de s'y conformer. Furiosa, il y a un peu de ça aussi. Elle est obligée de se conformer, de créer un récit qui pourrait être conforme au truc. Elle va se fourvoyer parce que voilà, elle va devoir rentrer dans un récit qui n'est peut-être pas le sien. Il y a plein de films qui rentrent comme ça là-dedans. Joker 2, c'est complètement
ça. Oui, je suis d'accord.
Il va y avoir d'autres films, cinéma américain, par exemple The Apprentice, c'est vraiment ça. C'est un mec qui lui explique comment se conformer, comment se créer une persona. Et tu vas avoir pas mal de films américains, et là j'en oublie, j'ai pas ma liste sous les yeux, je sais pas comment, mais il y a pas mal de films comme ça où tu dis, bah oui, c'est l'idée, c'est bah, comment créer un récit, un storytelling, évidemment, hein, pour balancer le mot et tout ça, mais qui soit conforme. Et il y a beaucoup de films qui vont travailler cette idée de la différence entre même Anora pourrait être là-dedans. En fait, à Anora, on va avoir l'idée d'un mec qui se crée un récit. Je suis un pauvre gosse de riche et je me crée une idée. Je suis un petit délinquant ou un petit romantique ou je sais pas quoi. Une travailleuse du sexe et qui me dit non, je suis une princesse en fait. Ils essaient de se conformer dans des récits et puis
il y a le trap de Shyamalan, à savoir trap où c'est justement un tueur en série qui se qui essaye de se créer son monde, oui, de père de famille, qui va participer au spectacle, justement. Et voilà, le trap de Shyamalan était fascinant. Il est
on
raté
m'a dit que c'était un film un peu improbable, en fait, en termes de narration. Ça tient pas trop la route.
Évidemment,
mais
c'est un truc de metteur en scène.
Mais c'est jamais
chiant.
Mais est-ce que tout ça n'aurait pas à voir avec le mythe?
Non, mais il y a un peu de ça. Mais
est-ce que ça ne serait pas une approche mythologique? Est-ce que le cinéma américain ne serait pas
parmi... Moi, je pense pas que ce soit mythologique.
Non, mais ce que je voulais dire...
Je ne pense pas, parce qu'après, le mythologique, c'est un peu un truc... excuse-moi, je te coupe, Étienne, ça t'énerve. Mais t'as un peu un truc où sur le mythe, on en fait...
Plutôt sur le cinéma comme créateur de mythe.
C'est un peu... C'est pas le mythe, c'est du fiction. La fiction, c'est quel récit tu acceptes, quoi. Quel récit tu peux accepter. C'est pas par rapport au mythe, quoi. C'est quel récit.
Mais le récit que tu acceptes, est-ce que ça peut être aussi un récit qui est fictif, qui traduit pas une réalité,
un
justement. The Apprentice. Moi, j'ai vraiment ressenti le film comme ça, quoi. C'est-à-dire vraiment l'histoire d'un mec qui a une espèce de tas de glaises, une espèce de d'étron, un peu sans personnalité, et puis il peaufine l'étron pour en faire un super méga étron mythique, qui représente l'Amérique.
Furiosa évoquait ça quand même.
C'est pas génial comme truc, mais ça raconte vraiment ça. Vas-y, pardon.
Mais
alors,
non, mais en plus,
c'est pour revenir sur quelque chose
que toi t'avais évoqué à propos de Furiosa, de comment chacun des personnages allait justement s'inspirer en fait d'un autre personnage pour créer sa propre justement icône, en fait. Et c'est vrai qu'on a quelque chose de ça dans les vieux cinéastes américains qu'on peut avoir en partie en tout cas de régénérer en fait les icônes en fait, et du coup va falloir aller piocher dans les sources, en fait. Et donc chacun des cinéastes va aller piocher dans sa source
il va falloir
recréer. Ouais. Mais c'est un danger.
Ce que je veux dire, c'est se ressourcer. Ils font que de dire que c'est un danger. Enfin, en tout cas, que ça soit The Apprentice, Joker, Furiosa, ils disent tous l'approche mythologique est un danger. Mais
alors oui, parce qu'elle se confronte au réel.
Clairement, The Apprentice, si on prend le truc qui est le plus. Parce que. On pourrait même rapprocher Emilia Perez là-dessus. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de se réinventer en autre personnage et se recréer un personnage. Y a plein de films là-dessus. Mais en fait, ils sont tous en train de dire ce truc de se recréer un personnage qui. On s'extrait de nous-mêmes pour se recréer une autre fiction. Il y a toujours un rapport un peu ambivalent.
Est-ce que c'est pas Coppola qui a raison dans ce cas-là, avec justement Megalopolis, où pour le coup, on évoque toutes les bases, tout ce qui peut nous nourrir, mais justement pour faire un truc complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il n'est pas question justement de juste reproduire quelque chose. Il est question de construire un truc nouveau.
Oui. Non, mais après, on en a déjà parlé dans notre émission sur Coppola. Le truc nouveau qu'il fait, il est nul et non avenu.
Surtout, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que les... C'est-à-dire, moi, ils sont quand même suffisamment âgés tous pour ne pas être dupes de ce procédé, justement, de mythologie ou de mise en mythe. Et notamment, par exemple, dans Furiosa, pour moi, il y a un plan, moi, que j'aime beaucoup. C'est dans la deuxième partie, dans le deuxième tiers de Furiosa, quand... Furiosa revoit en fait Dementus, mais ça fait genre des années qu'elle l'a pas revu. Et nous, comme elle, on a toujours l'idée de Dementus comme cette espèce de personnage, un peu too much, un peu zinzin, mais comme un peu flippant aussi.
Un peu gogol.
Voilà. Et voilà. Mais justement,
un méchant quand même.
Mais de mec effrayant. Et en fait, il y a ce moment où elle arrive à Pétrolville. Elle vient chercher de l'essence, et en fait il arrive avec son espèce de buggy, en fait, et il arrive, on le voit à travers l'encadrement de la fenêtre, et il est debout et on entend sa voix avant de le voir, et elle met la main sur la crosse de son arme, s'apprêtant à se venger, en fait, et en fait on l'entend, et quand il s'assoit, il a les cheveux gris, il est fatigué, et en fait on se rend compte que c'est juste une vieille merde, quoi. Et en fait on se rend compte que le type, c'est un des pires dirigeants politiques qui ait jamais existé sur Terre. C'est à dire que c'est très bon pour la conquête, nul pour la politique, tu vois, comme d'ailleurs, à mon avis, une bonne partie des grands conquérants de l'histoire de l'humanité.
Ça dénonce.
Très bon pour la conquête. Très bon pour massacrer tout le monde. Très bon pour massacrer tout le monde. Dès qu'il s'agit de gérer, là, par contre, il n'y a plus personne. Quoi.
En tout cas, Furiosa, c'est en ça que j'adore le film. Hein, c'est que moi, ça parle que de ça. Hein, c'est vraiment les images qu'on se crée pour.
Comment on fait fonctionner une société avec des images, en fait.
Ouais.
Et Megalopolis.
Société, mais c'est même en termes individuels. Si c'est foireux, c'est comment
même
on
si
se
c'est
recrée foireux, un ouais. truc, quoi, pour affronter le monde. Et il faut se recréer une sorte de petite fiction. Et tout le monde se recrée des micro-fictions. pour évoluer dans la société. Et Furiosa, c'est vraiment ça, quoi.
Et en même temps, pour terminer aussi, un film comme Horizon de Costner, lui, ce qui va exprimer le plus dans son récit, c'est le fait de vouloir partir pour justement sortir de son petit enclos, de son petit nid, en fait, et aller ailleurs. Sauf que à partir du moment où tu sors justement de ton espace sécurisé, tu crèves.
Oui, parce que là aussi, il y a du mythe. On te vend Horizon comme le paradis terrestre.
Sauf que voilà.
Et on te prévient pas qu'il y a des Indiens et qu'il y a des serpents.
On te prévient pas que le trou où tu vas aller est un trou encore pire que tu le
sais. C'est ça. Et constamment, tout le film, dès que tu sors de ton espace, paf. C'est la mort, c'est l'accident, c'est bouché, c'est encore pire en fait. Et donc les personnages passent leur temps.
La zone d'intérêt, c'est pareil.
J'ai pas vu la zone d'intérêt de Glazer, mais il y a peut-être un peu.
Ça peut rentrer dedans, hein, voilà, des gens qui se créent leur micro-fiction.
Et grosso modo, les cinéastes aujourd'hui nous expliquent qu'il faut pas sortir de chez soi parce que sinon tu crèves.
Ouais, non, c'est que tu peux le faire, mais à tes risques et périls. Voilà.
Oui, et du coup, c'est crever, quoi.
Et crever fait partie des périls.
Voilà. Ça fait partie de la vie.
Voilà. Et voilà, la mort fait partie de la vie. C'est bien, on aura bien sorti des trucs bien nouveaux. Et bien, voilà, bien
Polo Coelho.
Pas du tout des.
Non, mais ça vaut le coup d'inviter un Antonin Godard.
Vous
avez vu un grosse tête. C'est dit, voilà, c'est ça.
Merci à vous. Et puis,
le chemin de la philosophie.
Du coup, on n'a même pas parlé de cinéma indépendant. Enfin, bon.
Non, mais on va avoir l'occasion. Vous inquiétez pas, c'est que la deuxième partie.
Le début.
Il est tôt encore, on va pouvoir continuer.
Ça continue encore et encore.
Sur cette question des personnes par rapport à des trucs fictionnesques ou je sais pas quoi, il y en avait plein d'autres. May December, on le citera pas, mais c'est exactement ça.
Ouais.
Personnage par rapport à son modèle de fiction qui essaie de s'y conformer, c'est ça. Des documentaires, Nights Island, là, avec des mecs qui sont dans le.
T'essaies de foutre en l'air, en fait.
Environnement.
Dans un environnement virtuel.
Plein, plein de trucs. Ouais, il y a plein de trucs.
Non, parce que j'essaie de gérer, moi, un timing, en fait. On est à la radio.
Gère.
Donc, il était question de dire que merci à vous d'être venus et qu'on va entendre, d'ailleurs, à la fin de cette émission, pour clôturer le générique, un extrait d'Horizon qui va résumer de façon beaucoup plus pertinente tout ce que vous avez
dit. On
se fait chier à parler pendant une heure et en fait, on a un extrait.
En fait, il suffisait d'écouter l'extrait.
Ça fait bien longtemps qu'on se dit qu'on devrait passer des extraits plutôt que parler.
Tout. Ouais, c'est ça, pendant une heure. Merci en tout cas. Merci Thomas et Erwan de vous être extraits de Syllab pour venir à Canal B. Merci Jules Topoc, évidemment, d'avoir participé à cette émission.
Assez fascinant de gloser sur des films que je trouve pathétiques et nuls à chier et d'arriver à leur trouver une mythologie ou un certain retentissement politique alors que ce sont des sombres merdes.
Il va nous parler de chiffon dans une heure et...
T'inquiète pas, tu vas avoir le
on
temps.
Se vengera, on se vengera tout à l'heure, t'inquiète pas.
Merci Antonin d'avoir participé à cette émission encore
You're
une
welcome.
Fois. Et merci à vous, bien évidemment,
merci
de l'avoir
écouté. Merci à toi, Etienne, surtout.
Vous pouvez la retrouver en podcast.
C'est Etienne qui fait tout le boulot.
Sur le site. Merci Antonin. Merci, vous pouvez la retrouver en podcast.
Il est jeune, hein, il est bel homme.
Sur le site.
Il parle bien anglais.
Bien conservé, bien conservé.
Bon, ça suffit. Hein, sur le site de Canal+.
T'as podcast. Pas bougé, Etienne.
Oui. Retrouvez
le temps n'a pas de
tous les liens
toi.
Change pas,
sur les
change
sites.
Pas.
Tu es comme le homard invieillissant.
Et les réseaux sociaux que le docteur utilise. On se quitte avec un extrait.
Je t'aime.
De Horizon.
Super film, Horizon.
Kevin Costner.
T'as vraiment bon goût, Etienne.
Que je vous conseille, bien évidemment. C'est l'un des trois meilleurs films de l'année. Facile. Facile. Mais à voir sur grand écran, et bien évidemment, l'Arvor va le reprojeter très bientôt pour une séance rembobinée ou une séance du dimanche soir.
Monumental, monumental.
Il rentre partout, c'est merveilleux. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. Ciao. Bisous.
Est-ce que j'ai donné assez de matière à réfléchir à cet homme, sergent ? Ou l'ai-je seulement mis en colère ?
Un peu des deux, rien de surprenant.
Comment ça ?
Je pense à ces grands mouvements que vous décrivez, mon colonel. Le lieutenant aimerait pouvoir les maîtriser. Mais ça, c'est qu'un péché de jeunesse, puis d'orgueil. Ce qui doit arriver par la suite finira par arriver. S'il vit assez longtemps pour pouvoir y assister. Si vous voulez mon avis, nous n'écrivons pas plus l'histoire qu'un apache fait la pluie et le beau temps.
Et que serait-il censé se passer, d'après vous ?
Plus ou moins ce que vous dites, mon colonel. On continuera à avancer jusqu'à ce qu'ils se décident à Washington. Et une fois qu'ils l'auront fait, quand la guerre finira, oui, elle finira, et peu importe que nous soyons une nation ou deux, ils se tourneront à nouveau vers l'ouest, mon colonel. Et pour ce qui est de ces grands espaces dont vous parliez tout à l'heure, ceux que les peaux rouges ont l'air d'aimer à tel point qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Ces grands espaces, il y a des chances qu'ils finissent par se réduire en un clin d'œil. Voilà comment ça finira. Quoi qu'il arrive, ça se finit toujours comme ça sur les terres à conquérir.
Et avec un peu de chance, nous serons tous les deux morts et enterrés.
Espérons, mon colonel. On peut au moins se consoler en se disant ça.